Nous nous trouvons pour Radio Campus Tours pour cette émission spéciale de la table de multiplication au congrès de la Société française de recherche opérationnelle et d'aide à la décision. Et nous avons comme invité Fanny Pasquale, enseignant-chercheur au laboratoire d'informatique de Paris 6, Sorbonne Université, une des chevilles ouvrières du GDROD, vous nous direz ce que c'est, et qui nous a fait une présentation ce matin, un tutoriel d'une heure complète pour présenter aux étudiants, aux congressistes et peut-être à de futurs doctorants ces avancées de recherche et les axes, surtout les perspectives, les pistes de recherche dans un domaine de recherche opérationnelle très particulier, mais qui intéresse beaucoup de domaines, même s'il est un peu théorique, c'est l'ordonnancement multi-acteurs. Donc dans l'ordonnancement multi-acteurs, on a le mot ordonnancement et on a multi-acteurs qui fait référence d'une certaine façon à la théorie des jeux. Et comment est-ce qu'on peut mettre tout cela en commun pour finalement arriver à des décisions partagées et équitables. Donc Fanny Pasquale, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous rappeler votre parcours et votre position au sein de cette communauté de recherche opérationnelle, puis ensuite rappeler quelques fondamentaux de l'ordonnancement et en quoi l'ordonnancement multi-acteurs est quelque chose qui peut ouvrir des perspectives.
D'accord. Alors moi j'ai fait des études d'informatique un peu par hasard parce que j'ai découvert l'informatique à l'université. Après voilà, je voulais faire autre chose mais finalement ça m'a intéressé en découvrant la discipline. Ensuite j'ai fait une thèse d'informatique, donc c'était à l'université d'Évry, j'ai continué sur cette voie-là. Puis un post-doc à l'INRIA à Grenoble et j'ai été nommée maître de conférence à Sorbonne Université, donc à Paris. Et depuis, je suis restée là-bas au LIPSIS. Et depuis ma thèse, je m'intéresse à des problèmes d'ordonnancement. Donc les problèmes d'ordonnancement, c'est des problèmes qui sont étudiés depuis les années 1950, donc depuis il y a quand même assez longtemps, où on cherche à avoir des algorithmes, donc des méthodes pour ordonnancer des choses à faire, donc des tâches dans le temps. Donc ça peut être la production d'une pièce dans une usine, il y a différentes parties de pièces à faire et dans quel ordre on va faire ces parties de pièces pour que la pièce qu'on construit ou la voiture ou l'objet qu'on construit soit fait le plus vite possible, des choses comme ça. Donc les problèmes d'ordonnancement, c'est des choses qui sont étudiées depuis très longtemps, même avant que les ordinateurs soient très puissants. Et maintenant, ce qui est un petit peu nouveau aussi, enfin, il y a plein de choses nouvelles, hein, mais une chose qui apparaît ces dernières années, c'est les problèmes d'ordonnancement multi-acteurs, où il y a plusieurs personnes qui partagent des tâches ou qui ont des intérêts sur des tâches. Et on doit tenir compte du fait que, voilà, on n'est pas en train d'ordonnancer des pièces pour fabriquer à la fin une voiture, mais des tâches qui appartiennent à plein de gens qui sont différents, qui ont des intérêts différents, voire divergents, quoi. Donc, c'était le but de mon exposé de ce matin et ça ouvre plein de perspectives de recherche dans plein de domaines différents où on va vouloir des solutions qui sont équitables. Si par exemple plusieurs personnes partagent des machines et ont des programmes ou des tâches à faire tourner sur des machines, on va pouvoir vouloir des solutions qui soient bonnes pour tout le monde. On va vouloir des solutions si maintenant on suppose que les tâches sont des tâches qui intéresse différents agents et chaque agent a une préférence sur l'ordre dans lequel on veut ordonnancer les tâches. On va vouloir retourner un ordonnancement qui convienne un peu à tout le monde. Donc là, il y a aussi des critères d'équité ou des propriétés qu'on voudrait respecter pour retourner l'ordonnancement possible. Il y a aussi des problèmes, là j'en ai pas parlé ce matin, mais des problèmes de théorie des jeux ou théorie des jeux algorithmiques, c'est-à-dire que les gens peuvent mentir si ça intéresse leurs propres intérêts, ils peuvent dire qu'ils ont des tâches plus longues qu'elles ne sont en réalité ou mentir sur la vitesse de leur machine, des choses comme ça. Donc on veut des algorithmes robustes aux manipulations. Donc il y a plein de nouveaux problèmes qui arrivent du fait qu'on a différents agents et pas une seule personne qui va ordonnancer ses propres tâches pour son propre intérêt, quoi.
Donc, effectivement, la multiplicité des problèmes que le domaine de la recherche opérationnelle peut résoudre est vaste. L'ordonnancement en fait partie, l'ordonnancement multi-acteur en fait partie. En général, dans des problèmes de recherche opérationnelle, on a la phase modélisation et la phase résolution. Et donc, il faut choisir des modèles. On peut avoir, si j'ai bien compris votre exposé, un modèle où où chacun a sa tâche et chacun a sa machine, mais aussi un modèle où chacun est obligé de partager les machines, et puis un modèle où chacun est obligé de partager les tâches à travers les machines, enfin obligé ou potentiel ou peut le faire. Donc ça, c'est l'aspect contrainte. En ordonnancement, on voit bien ce que sont les contraintes, contraintes de ressources, contraintes de temps aussi, de temps d'exécution. Dans la modélisation, on a aussi les critères. Critères, qu'est-ce qu'un bon ordonnancement au sens de l'ordonnancement multicritère ? Et j'ai retenu dans votre présentation qu'on cherche des ordonnancements de consensus. Est-ce que vous pourriez en dire plus à nos auditeurs ?
Alors là, c'est des notions qui viennent de choix social, donc c'est une branche de l'économie. Ce n'était pas du tout fait par des informaticiens, mais plutôt des choses qui viennent vraiment du monde économique. Où en économie, ils ont certaines propriétés qui... Donc en économie, ils ont beaucoup étudié des problèmes de choix social, par exemple des problèmes de vote, quelle procédure faire pour voter un candidat. Si chacun a ses préférences sur différents candidats, quelles règles de vote utiliser. Et donc il y a plein de travaux comme ça pour essayer de définir quelles règles de vote utiliser une fois que les gens ont donné leurs préférences. Et il y a des propriétés qui sont qu'il faut respecter, par exemple, qui sont souhaitables de respecter. Si tout le monde veut élire le même candidat, il faut que ce candidat-là soit élu. Et si tout le monde préfère le candidat A au candidat B, il faudrait plutôt que ce soit le candidat A qui soit élu. Ils ont différentes règles comme ça, plus ou moins de la plus simple à la plus compliquée. Ils ont une autre règle où si on a plein de candidats et puis un candidat, quand il est battu par un, enfin, si on fait des duels candidat A, candidat B, la majorité préfère toujours A à B, et la majorité préfère toujours A à C, la majorité préfère toujours A à D, etc. Il faut que ce soit A qui soit élu. Donc ça, c'est différent. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de Condorcet. Et donc, on part de propriétés comme ça qui viennent du choix social et on essaye de voir ce qui pourrait être utile en ordonnancement et avoir des propriétés comme ça pour des problèmes d'ordonnancement. Et ensuite, le but, c'est de faire des algorithmes, enfin d'essayer de trouver des algorithmes les meilleurs possibles et de voir quelles propriétés sont vérifiées par tel ou tel algorithme. Et ensuite, en fonction des propriétés qu'on aimerait avoir, choisir l'algorithme adéquat.
Donc effectivement, multi-acteurs, chaque acteur a son jeu, chaque acteur a ses préférences. Il peut avoir des préférences utilitaristes, des préférences éthiques ou des préférences autres. Effectivement, là, on voit bien que la recherche opérationnelle est à la croisée de beaucoup de domaines, autant des domaines de sciences sociales que des domaines de sciences de gestion, que des domaines de mathématiques. Et effectivement, Condorcet, ça remonte déjà. Et pourtant, la question posée est la question de la... Comment, quand on a beaucoup d'acteurs qui chacun ont leurs préférences, comment on fait émerger une décision partagée ? Et ça fait partie de la modélisation. Peut-être il faudrait convoquer un philosophe aussi sur cet aspect des choix de préférence, du passage du pluriel dispersé au collectif dont doit finir par émerger une décision. Mais ce sera peut-être pour une autre émission.
Dans quelle mesure un algorithme peut prendre en compte des facteurs comme, les origines sociales ou le genre ? Parce que dans certains votes, qu'est-ce qui fait que telle population va systématiquement choisir le candidat A et pas le candidat B ou C ? Si par exemple le candidat A est un homme et que les candidats B et C sont des femmes, donc, comment est-ce qu'on peut prendre en compte ces facteurs-là ? Donc dire qu'il y a des biais de genre. il y a, par exemple. Ou alors, bah, les personnes qui sont de telle origine sociale ont plutôt tendance à voter pour tel profil de candidat. Donc comment est-ce qu'on peut prendre ces facteurs-là en compte ou ne pas les prendre en compte? Je ne sais pas.
Alors, on suppose souvent, c'est assez abstrait, on suppose qu'on a les préférences des agents qui vont dire, bah voilà, par exemple, je préfère, si on veut un ordre d'effectuation de tâches, je préfère telle tâche à telle tâche à telle tâche. Ce problème se pose aussi dans le problème de budget participatif qui ont lieu dans plein de villes où les gens vont dire, bah, je vote pour tel projet, tel projet, tel projet, mais on ne se demande pas pourquoi ils ont voté pour... Enfin, souvent, on ne cherche pas à savoir pourquoi ils ont voté pour tel projet plutôt qu'un autre. Et donc, effectivement, ces questions-là, on n'en tient pas compte. C'est juste que, par exemple, pour les problèmes de projet participatif, il y a certaines... à Paris, par exemple, mais je pense que c'est pareil partout, des gens votaient, peut-être des quartiers plus favorisés, votaient plus que les autres, et ça avait tendance à faire plus remonter certains projets qui favorisaient plus les gens qui étaient déjà favorisés. Et donc, il y a des espèces de... Donc maintenant, il y a des projets par arrondissement où il y a un certain budget qui est forcément fléché pour les quartiers prioritaires ou les quartiers plus pauvres, des choses comme ça. Mais à part ça, pour que tout le monde puisse s'exprimer et pour tenir compte des préférences de chaque... en tout cas, des gens de chaque quartier. Mais sinon, nous, c'est quand même assez abstrait. On suppose qu'on a les préférences des gens et effectivement, on ne sait pas comment faudrait...
Donc, le chercheur opérationnel, il va mettre en place des méthodes qui tiennent compte des préférences. Ensuite, voilà. Le développeur opérationnel, il va aller recueillir les préférences éventuellement sur le terrain si un jour on voulait déployer ces méthodes-là.
Oui, on suppose qu'on les a. C'est un peu comme pour le budget participatif, c'est la même idée. Mmh. C'est les gens votent. Et alors là, il faut voir effectivement comment on recueille leurs préférences. Est-ce que c'est une liste de projets, je préfère celui-là, puis celui-là, puis celui-là, ou alors est-ce que c'est un vote par approbation où chacun dit, bon, moi, ces projets-là, je les aime, j'aime pas ceux-là. Ou alors, est-ce qu'on donne à chacun un budget? Voilà, on peut voter pour des projets jusqu'à 100 000 euros et chacun choisit ses projets sans dépasser cette barre-là. Et donc déjà, il y a plein de façons de faire et effectivement, là, faut que quelqu'un choisisse, c'est pas forcément la même chose à la fin. Puis après, une fois qu'on a ces données-là, on fait l'algorithme qui va bien, quoi.
Vous donniez dans votre conférence l'exemple des rénovations du métro parisien, ligne par ligne, tranche par tranche, et comment... la recherche opérationnelle, l'algorithme peut aider à faire les choix de préférence entre telle ligne d'abord ou telle ligne d'abord. Est-ce qu'il y a eu des recueils, des préférences, des problématiques comme ça ou pas du tout?
Non, là c'est justement une nouvelle thématique. Il y a pas mal de projets où les décideurs décident de faire comme les lignes de métro, mais ça arrive à plus petite échelle, même dans une municipalité où on veut, je sais pas, refaire les trottoirs, ben on va décider, on fait d'abord celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Et donc, il y a pas mal de situations où plein de projets sont décidés, puis après, il faut échelonner ces projets au cours du temps, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et là, on essayait de voir en fonction des... On pourrait demander aux citoyens leur avis, parce que ce n'est pas fait en pratique pour l'instant. Mais un peu comme pour les budgets participatifs, où on pourrait avoir soit prendre des citoyens au hasard, soit demander à tout le monde, enfin, faudrait voir. Mais essayer de recueillir l'avis des citoyens et en fonction de leur avis, trouver le bon ordre, en tout cas l'ordre qui pourrait être le plus satisfaisant possible pour les gens. Donc c'était un peu ça le but de cette partie de l'exposé, en tout cas.
Oui, tout à fait. Et donc là, on est dans la modélisation et puis ensuite, il y a les techniques de résolution, et puis ensuite les simulations, mais dans les techniques de et au LIPSIS, on est en France à la pointe de l'aspect théorique entre guillemets des choses, et ensuite ça ruissellera sur les applications et d'ouvrir des perspectives comme ça. Alors au niveau de la résolution, donc il y a des résolutions de problèmes qui se font assez facilement. Et puis certains problèmes sont ce que vous appelez dans votre jargon NP difficile, hein, c'est-à-dire que la résolution prendrait toute la taille de l'univers en carte mémoire et tout le temps restant à l'univers avant qu'il se désagrège pour trouver la solution optimale si on voulait. Est-ce que vous pouvez un petit peu éclairer pour nos auditeurs à la manière Journée des sciences, ce que c'est que le problème NP versus P et ce que c'est que les problèmes de complexité, puisque c'est quand même un des 10 problèmes de mathématiques à l'heure actuelle.
Ouais. Alors le problème P versus NP, effectivement, c'est un des problèmes les plus importants en informatique théorique, mais aussi en mathématiques. Je pense que si quelqu'un trouvait ce problème-là, il aurait le prix Turing en informatique et puis en mathématiques aussi. Je pense qu'il serait vraiment très reconnu. Donc c'est un problème... En gros, il y a la classe des problèmes dit... la classe P, c'est les problèmes qu'on peut résoudre de manière efficace avec des algorithmes. Quand on a des grandes données, on a des algorithmes qui les résolvent. Donc on dit en temps polynomial, mais ça veut dire rapidement. Donc par exemple, si on a un grand tableau, on a un problème avec des villes qu'on doit visiter, on a 20 villes, enfin on a N villes, on va dire N. Mais quand N augmente, il faut qu'on puisse visiter ces villes rapidement, donc en un temps qui est de l'ordre de N, N au carré, enfin en tout cas qui est raisonnable et que tous les ordinateurs qu'on utilise puissent résoudre en un temps raisonnable, même quand N vaut 1000 ou vaut 10 000. Et les problèmes NP difficiles, c'est les problèmes... c'est la classe P, les problèmes faciles. Et il y a les problèmes dits NP difficiles, c'est les problèmes... pour vulgariser un peu, on sait, quand on vous donne, donc par exemple, un problème NP difficile, je vais vous le donner, c'est on a N villes, donc en France, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, et on veut trouver un plus court chemin qui relie toutes ces villes et qui retourne au départ. Donc on part de Tours, on veut visiter 15 villes, on vous donne ces villes-là et on veut revenir à Tours et on veut faire le tour le plus rapide possible, faire le moins de kilomètres possible. Donc ça, c'est quand on a quelques villes, 5 villes, 6 villes, on y arrive. Mais quand N vaut 100, c'est très dur. Et quand vaut 1000, on n'a pas d'algorithme qui sache résoudre ce problème-là pour tout instant. C'est-à-dire, quelles que soient les villes qu'on vous donne, qui vous donnent la solution optimale. Et c'est un problème dit NP difficile, donc qui fait place... Bon, c'est des questions de complexité derrière. Mais surtout, ce problème-là, si on savait résoudre un problème NP difficile, comme par exemple... trouver le tour le plus rapide pour aller dans toutes les villes, il est prouvé qu'on pourrait résoudre tous les autres problèmes dits NP complets, donc plein d'autres problèmes très difficiles comme ça, dont des problèmes de chiffrement, par exemple, utilisés sur Internet, donc tous les systèmes de chiffrement tomberaient, et plein de problèmes très difficiles qui, tout d'un coup, seraient résolus facilement. Donc, il est conjecturé que les problèmes NP difficiles comme ça, on ne peut pas les résoudre de manière très raisonnable, très rapide. En tout cas, c'est ce que les gens posent sans avoir la preuve. Justement, il reste à faire la preuve que les problèmes de la classe NP, donc qui sont en fait des problèmes dont on sait vérifier rapidement qu'une solution est une bonne solution, mais on ne sait pas trouver cette solution-là, bah, que ces problèmes-là, il n'existe pas d'algorithme efficace. Ce n'est pas juste qu'on n'en a pas trouvé, mais il n'en existe pas. Et donc, il y a plein de problèmes en recherche opérationnelle qui sont NP difficiles. Donc, on suppose, sans en avoir la preuve, mais comme on le conjecture, qu'on n'a pas d'algorithme qui, à chaque coup, nous donne la meilleure solution et en temps raisonnable.
Et donc, chers auditeurs et éditrices, vous avez là la preuve vivante que, comme dans beaucoup de domaines de recherche, mais l'aéro-AD dont nous parlons aujourd'hui, elle touche autant des problèmes d'informatique théorique que des problèmes d'informatique pratique. L'aéro donne des outils pour résoudre plein de très nombreux problèmes de la vie quotidienne, mais elle explore aussi un certain nombre de problèmes standards, de problèmes paradigmatiques. J'ai beaucoup aimé Fanny Pasquale lorsque vous, dans la partie résolution, vous évoquez l'analogie entre les problèmes d'ordonnancement que vous traitiez et puis leur réduction à des problèmes iconiques de mathématiques informatiques, comme le problème partition, comme le problème du sac à dos. Toutes les techniques que les chercheurs théoriques développent pour adresser le problème partition ou le problème sac à dos, elles vont pouvoir ruisseler sur les problèmes pratiques, notamment les problèmes d'ordonnancement. Est-ce que vous vivez ça au quotidien au sein d'un laboratoire aussi prestigieux que le LIPSIS ?
Alors en fait, les réductions, on peut utiliser, quand on a de la chance, des résultats pour des problèmes iconiques comme le sac à dos dans des problèmes d'ordonnancement, mais on utilise plutôt, par exemple, donc le problème de partition, je ne sais pas si vos auditeurs connaissent, on a N nombres, n'importe quoi, on va les appeler 1, 2, enfin on a N chiffres, et on veut savoir si on peut les diviser en deux groupes, tel que la somme des nombres dans un groupe est égale à la somme des nombres dans l'autre groupe. Donc ça, c'est le problème de partition. Voilà. Par exemple, si vous avez 1, 3, 4 et 2, on peut faire 1 et 4 d'un côté et 2 et 3 de l'autre. Donc il existe une partition de ces éléments-là. Et donc ça, c'est un problème NP difficile, justement, enfin NP complet même. On n'a pas d'algorithme qui puisse le résoudre, quels que soient les nombres, très rapidement. Et en fait, ce qu'on fait quand on a un nouveau problème en ordonnancement ou autre, un problème dont on ne connaît pas la complexité, on montre qu'il est au moins aussi dur que ce problème de partition. Donc on montre que si on sait résoudre notre problème d'ordonnancement, alors on sait résoudre ce problème de partition. Et donc notre problème est encore plus dur que le problème de partition, qui est déjà extrêmement dur et qu'on ne sait déjà pas résoudre. Donc on a un problème difficile, en fait. Donc c'est souvent pour montrer la complexité de problème qu'on part de ces problèmes iconiques. Une fois qu'on sait qu'on a un problème difficile, on sait qu'a priori on ne peut pas le résoudre. Ou alors si on peut le résoudre, on a résolu tous les autres problèmes difficiles. Donc voilà, c'est peu probable. Et une fois qu'on ne sait pas le résoudre, qu'on sait qu'on ne peut pas forcément le résoudre tout le temps de manière efficace, soit on essaye de trouver des algorithmes qui résolvent quand même le problème le plus rapidement possible, ou dans la plupart des cas. Ou alors on essaye de trouver des algorithmes approchés qui ne résolvent pas toujours le problème de manière optimale, mais qui sont très proches de l'optimal. On peut dire qu'ils sont à X% de l'optimal, et ça on peut le prouver. Ou alors on essaye de trouver des algorithmes qui, la plupart du temps, retournent des solutions optimales, mais qui ont une probabilité d'erreur. Il y a plein de techniques après pour résoudre des problèmes qu'on ne sait pas résoudre toujours de manière optimale en un temps le plus rapide possible.
On a fait un petit peu de technique, j'en demande pardon à Mélissa et à nos auditeurs, même si ça a pu les éveiller à certains casse-têtes mathématiques, à certaines énigmes, à certains, j'invite ceux que ça intéresse à aller regarder sur leur moteur de recherche préféré ce qu'est le problème de sac à dos. Ça peut leur donner des occupations pour ce week-end. Pour finir, j'aimerais bien poser quelques questions un petit peu plus sur le métier de chercheur et sur finalement ce que vous attendez, ce que vous êtes venu chercher en allant dans un congrès aussi prestigieux que celui de la Société française de recherche opérationnelle et d'aide à la décision. Dans l'amphi où vous étiez, l'amphi était bondé, hein, et on voyait les étudiants prendre des notes en se disant « Tiens, ça c'est une piste de recherche, j'en ferai bien ». Et il y en a même deux ou trois, si j'étais encore en master, j'en aurais fait mon mon sujet de master 2 ou de doctorat. Depuis combien de temps vous faites de la recherche et qu'est-ce que ça vous procure comme sentiment, comme outre le fait que c'est un métier qui c'est un vrai métier.
Alors moi je fais de la recherche depuis que j'ai commencé ma thèse. Et justement la première conférence, le premier congrès où je suis venue, c'était un congrès REDEF qui était à Tours déjà donc la dernière fois qu'il était à Tours, c'était
en 2005.
2005, j'étais pendant je faisais ma thèse et donc voilà, je suis contente de revenir à Tours où j'ai commencé la recherche en fait. Enfin, en tout cas, la première fois où j'ai présenté mes travaux. Et l'intérêt de ce congrès-là donc, a lieu tous les ans en février dans différentes villes. Donc là, qui est revenu à Tours, mais d'habitude, on change de ville. C'est de rencontrer toute la communauté, donc tous les chercheurs de Tours. Donc, je sais qu'il y a pas mal de chercheurs en ordonnancement, par exemple, à Tours. De Marseille, Grenoble, etc. De discuter ensemble, de voir ce que chacun fait, de partager des pistes de travaux ouverts. Donc effectivement, il y avait plein de pistes de travaux ouverts dans mon exposé ce matin, mais c'est pareil dans les autres exposés. C'est mieux que de s'envoyer des mails ou de... c'est bien de se voir aussi en vrai, de discuter. Et on discute aussi un petit peu enseignement, parce qu'on enseigne tous la recherche opérationnelle ou l'algorithmique, ou en tout cas l'informatique. Et donc on peut partager des choses et en recherche et en enseignement pendant ces 3 jours-là. Donc c'est toujours sympa de voir des collègues, d'avoir des nouvelles idées, de discuter.
Bon, alors moi, je fais partie malheureusement des personnes pour qui Sac à dos est associé à Dora, hein, excusez-nous. Alors, Fanny Pasquale, vous avez évoqué tout à l'heure un algorithme robuste aux manipulations. Alors comment est-ce qu'on peut, disons, quantifier ou modéliser le risque de mensonge ?
Alors là, on peut pas. On suppose que les agents peuvent mentir. Donc par exemple, si on va faire un cas simple, les agents ont des... Donc les agents, quand je dis agents, c'est les gens, c'est n'importe qui. Imaginons qu'on ait une machine partagée où on veuille mettre des tâches, et les tâches, ça peut être des programmes à faire tourner. La personne va dire, bon, bah, moi j'ai besoin d'une heure ou de 2 heures ou autre. Et on ne peut pas savoir si elle dit la vérité ou on ne connaît pas la vérité. Mais elle peut, par exemple, augmenter artificiellement la longueur de ses tâches. Elle va dire qu'elle a besoin de 2 heures. En fait, elle a besoin juste d'une heure, si ça peut l'avantager. Et donc voilà, dans ce cas-là, on va faire un algorithme qui fait que les gens n'aient pas intérêt à augmenter artificiellement la longueur de leur tâche. Et donc on peut proposer des algorithmes et faire des preuves qui montrent qu'il est de l'intérêt de l'agent, si par exemple son but c'est que sa tâche se finisse le plus tôt possible, il est de l'intérêt de l'agent de ne pas mentir.
Mais ça veut dire que quand on fait de l'ARO, on prend aussi en compte des facteurs disons purement humains, ouais. Comme celui-là par exemple, le risque que les gens essaient de tricher.
Voilà, alors on peut, ça dépend, on ne peut pas faire ça tout le temps parce que ça a une contrepartie. On peut dire, si on fait un algorithme robuste aux manipulations, donc il sera robuste aux manipulations, alors il faut déjà qu'on voit quelle manipulation on peut contrer, hein, mais par contre, il y aura une contrepartie, il sera peut-être moins efficace que si on suppose que les gens ne mentent pas. Donc oui, on essaye de, faut voir si on veut un algorithme vraiment efficace et on suppose que les gens mentent pas, ou alors si le risque que les gens mentent est trop important et du coup on veut vraiment un algorithme robuste aux manipulations, quel est le prix à payer, des choses comme ça, quoi.
Et alors, une dernière question, vous avez fait une communication dans une conférence à Athènes en 2025 avec d'autres chercheurs. Il était question de découpage électoral et de l'impact sur les résultats électoraux. Est-ce que vous voudriez nous en dire plus ?
Oui, alors là c'est un travail tout autre, mais qui est aussi sympa et qui est aussi en recherche opérationnelle. En France, on a des cantons. Quand on vote pour notre député, en fait, dans un département, il y a différentes circonscriptions et chaque circonscription est faite de cantons. Et les circonscriptions, donc il y a des règles au niveau national, il faut qu'il y ait à peu près le même nombre d'habitants dans chaque circonscription d'un département, mais on est à plus ou moins 20% près. Donc il y a quand même quelque chose d'une certaine marge. Et donc les circonscriptions ont été faites, c'est historique, on ne sait pas trop comment, mais elles ont été faites par des députés ou des politiques. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, et donc on a des découpages comme ça qui sont faits. Donc une circonscription, c'est juste un ensemble de cantons. Et on répartit les cantons en différentes circonscriptions, puis après, tous les gens d'une même circonscription votent pour un député. Et nous, on a regardé les différentes façons dont on aurait pu créer des circonscriptions, pas juste garder celles qui sont actuelles, mais essayer de voir tous les découpages possibles. Et ça, on peut les générer par ordinateur. Maintenant, on ne pouvait peut-être pas avant, mais on a des algorithmes qui, pour la plupart des départements, peuvent faire ça. Donc, on a tous les découpages possibles. Et c'est intéressant pour déjà voir tout ce qui est possible. On peut avoir des découpages beaucoup plus équilibrés que ce qu'on a actuellement, où la population est... est plus équilibré entre circonscriptions que maintenant. Et on s'est intéressé à regarder aussi, et c'est un projet en cours, hein, c'était juste une première publication, à ce qui pourrait se passer au niveau électoral, en fait. Donc si on a regardé pour les différents découpages, en fonction des votes au premier tour des élections législatives, c'était en 2022, je crois, de voir qui serait passé au second tour suivant les découpages possibles. Et c'est très variable suivant les découpages, en fait. Et donc voilà, en fait, on peut essayer de, en générant tous les découpages possibles, avoir une idée de si un... Enfin, en tout cas, on peut se dire, si dans 99% des découpages, on aurait ce résultat électoral, mais que le découpage choisi, on a un autre résultat électoral, on peut se demander pourquoi. Donc on ne répond pas à la question, mais ça permet de voir des anomalies comme ça, ou en tout cas d'essayer de trouver une explication à certaines choses. Et d'avoir un processus un peu transparent qui permet de générer tous les découpages possibles et pas qu'un découpage soit choisi par on ne sait pas trop comment Voilà.
Bon, bah, j'espère que les élus se saisiront de vos travaux, de ceux-là et des autres évidemment. Je pense que c'est en effet très intéressant d'un point de vue, dans un enjeu démocratique en fait, de montrer de façon chiffrée. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.